la table des gourmands. Jusqu'à 19h.
À une dizaine de kilomètres de Porrentruy, dans le bassin Angelot, se trouve un village d'une centaine d'habitants, surnommé les Escargots. Un village tranquille et paisible à 585 mètres d'altitude.
Notre village est bâti.
Il est construit sur d'anciens vestiges romains, il est situé sur la colline et surplombe le village. Ce château abrite de magnifiques saveurs, de bonnes fragrances culinaires, pour la simple et bonne raison que le château de Plujouze est un restaurant. Ce soir à la table des gourmands, on revêt la côte de maille et la crinoline pour recevoir Catherine et Gérard Pro. Catherine, Gérard, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes un couple à la ville, mais aussi au fourneau. Alors, on ne va pas la jouer people, hein, mais lors de votre rencontre, est-ce que c'était une évidence de monter à deux le projet d'être restaurateur ?
On peut dire que tous les deux, on est déjà très passionnés par notre métier. Et puis, on a fait déjà plusieurs expériences en France. Et puis, bon, on voulait partir sur un projet qui soit vraiment propre à nous, avec ce qu'on a envie de faire, quoi, en fin de compte.
Ouais. Catherine, vous êtes une enfant de la région. Hein, Gérard, vous avez grandi en Bretagne, puis vous êtes partie sous le soleil du sud de la France. Alors très rapidement, Gérard, vous avez découvert le climat, ça vous l'avez fait tout seul. Mais c'est elle qui vous a fait découvrir sa région. Comment avez-vous découvert le château de Plujouze ?
Le château de Plujouze, j'y venais petite quand papa nous emmenait à la fête aux cerises. Donc c'est les premières fois où on avait droit à cette boisson sucrée formidable, n'est-ce pas, où on la gagnait. Et on venait s'ébattre avec mes frangines et puis cette fête aux cerises, c'était des moments assez inoubliables. Et puis du coup, ce château m'a toujours fait rêver. Alors de là à penser que j'y reviendrais, ma foi, quand l'idée et quand l'occasion s'est produite, eh ben, on a franchi le pas. On était deux pour faire vivre ces fourneaux.
Et puis donc le château, vous, donc petite, vous le voyez, hein, vous en rêvez, comme vous dites, hein, comme chaque château de princesse. Mm-hmm. Et comment vous lui en avez parlé assez rapidement, ou vous êtes allé le voir, ou est-ce que ça s'est fait autour d'une balade, d'une promenade ?
Non, il se trouve que je suis revenue en Suisse pour diverses raisons. On était en France tous ensemble, on a monté un autre château en France. Et puis, je venais en Suisse pour une balade. Et puis, je me renseignais un peu à gauche, à droite, savoir comment on pouvait monter une entreprise en Suisse. Et puis, une dame m'a dit, mais prenons ce château comme exemple. De toute façon, personne n'en veut, personne n'ira. Puis, autour de ce château, j'ai été voir une association fêtière, un banquier, une fiduciaire, savoir comment on se montait. Et puis, en rentrant, je dis, voilà ce que j'ai construit autour du château. Et puis, autour du château de Plujouze. Puis, il me dit, viens voir ton château. Et puis, il regarde, il me dit, bon, eh ben, c'est là où on va aller. Voilà.
Il vous a tout de suite plus erreur.
Oui, eh ben, c'est quand même impressionnant parce que c'est un château qui est...
Un vrai château.
Un vrai château qui nous correspondait au niveau de la taille et puis l'esprit qu'on voulait donner à notre cuisine. Et puis, c'est un lieu qui a énormément d'énergie. Et puis, on le ressent tous les jours. Et les gens sont bien chez nous parce qu'il y a cette énergie qui est incroyable. Et puis, du fait qu'on est généreux aussi, je pense qu'il y a une symbiose entre tout ça.
Ouais. Alors, ce château, au fil des ans, ne désemplit pas. C'est un château qui permet à ceux qui viennent d'y découvrir une cuisine innovante, délicieuse, dans un cadre agréable et idyllique. Ce château, qui date du XIe siècle, il est chargé d'histoire, hein, vous le dites, il a des bonnes ondes. Mmh. Mais comment fait-on pour se l'approprier ?
Eh bien, on y travaille. On y travaille parce que dans un lieu comme dans un couple, il faut se donner. Il faut se donner le moyen de sentir ce lieu, d'y être bien, de se l'approprier. Ouais.
Et puis bon, pour que ça soit un vrai château, on a construit un four à bois parce que dans tout château, dans toutes les légendes, il faut un dragon. Alors tous les matins, vers 6h du matin, les étincelles brillent dans la nuit. C'est le château qui souffle. le fond du château qui souffle, le dragon est là. Voilà.
Alors pourquoi à 6h du matin ?
Eh bien parce qu'un four à bois, il faut un peu de temps pour qu'il soit chaud. Hein. Alors le temps de le préparer, puis un four à bois, il y a trois chauffes différentes hein, pour avoir un très bon résultat. Si bien que voilà, il faut commencer dans ces heures-là pour...
Et ça, vous avez voulu le garder pour garder justement ce vrai esprit de château ?
Oui, puis bon, moi j'ai toujours voulu conjuguer la cuisine très moderne et puis tout ce qui est aussi terroir et puis tout ce que nos aînés nous ont laissé. Bon, c'est important de vouloir transmettre un peu toutes ces vieilles recettes, ces vieilles saveurs et puis les mettre au goût du jour, bien sûr. Chaque fois que c'est possible.
Ouais. Alors, vous l'avez dit, vous avez très vite travaillé ensemble, d'abord côte à côte.
Hein, alors, on a fait ça de façon moderne. On a fait ça de façon très moderne. Nous nous sommes mariés et ensuite, nous avons vécu ensemble. J'ai déménagé à Toulouse. Nous avons travaillé ensemble dans le même mois. Donc, c'était au début très étincelant, mais ça a fonctionné.
Et puis donc, vous avez travaillé, le château dont vous parliez avant, c'était le château de Salette, hein, dans le département français du Tarn. Vous avez donc appris à vous compléter pour enfin, en 2002, vous accorder et devenir tous deux de vrais artisans du goût et d'avoir votre propre restaurant, donc, qui est le château de Plejouze. Vous êtes tous deux des maîtres-queues. Catherine, vous avez juste avant de faire l'école hôtelière de Genève, maîtrisé les casseroles de chez Georges Wenger, au Noirmont. Vous, Gérard, vous avez parcouru la France entière afin de découvrir des saveurs. Et tel des musiciens, vous faites mijoter, confit, ronronner des ingrédients du terroir, des ingrédients de saison. Vous faites ça à quatre mains, tout le temps, afin de mettre dans l'assiette de nos convives, de vos convives, une cuisine différente, inventive, voluptueuse. Alors, comment on fait quand on travaille à quatre mains pour s'accorder comme vous le faites si bien?
De façon très simple, il y a un chef. Non, il y a un chef. Il m'a toujours dit que j'avais 10 ans de retard, donc je rattraperai pas ces 10 ans. Je me rattraperai pas. Mais Gérard a le sens de faire des menus qui ont une continuité aux façons des goûts, dans les goûts, les saveurs, les textures que moi je ne possède pas et j'ai pas le temps. Donc, de fait, quand on arrive sur la partie sucrée, il me dit un peu ce qu'il veut, ce qu'il recherche en goût, en saveur, en texture. Et puis moi, je vois avec ce que je connais comment on peut allier les choses. Et puis après, je propose et des fois, il dispose autrement. Mais j'accorde parce qu'il y a toute une suite logique dans tout le menu.
Donc, ce qui est incroyable quand vous en parlez, c'est elle des musiciens réellement. Ah, oui. Il vous donne la partition, vous prenez les notes, et puis là, il vient quand même ajuster s'il faut une ronde, une blanche, plutôt une croche, une double croche.
C'est vraiment des harmonies. Hein. C'est vraiment des harmonies dans la cuisine.
Alors aujourd'hui, c'est dit gentiment. Des fois, il me dit non. Ça va juste pas. Bon, eh bien, faisons autre chose.
Mais est-ce que dans ces cas-là, vous lui demandez pourquoi? Est-ce que vous cherchez à comprendre ce que vous avez fait faux pour justement
alors,
évoluer?
Alors, il me dit pourquoi ça va pas, pourquoi ma saveur est pas juste, pourquoi si elle est trop puissante, si elle est pas assez puissante, si c'est pas ce goût-là, si c'est pas le premier goût qu'il recherche, mais plutôt le second qui n'est pas assez poussé. Donc tout ça, mais ça se fait pas en une seule fois, donc on en discute. Et puis, il me pousse aussi dans mes retranchements par rapport à mes connaissances, à ce que je sais faire, puis à dire, mais ça, t'as jamais fait, puis ça, tu sais faire. Bon, des fois, je dis non, je sais pas. Il me dit, si, tu sais. Bon, alors, on va essayer.
Let's go, allez.
Oui, c'est un peu ça, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, de fil en aiguille, je pense qu'un artisan, au fil du temps, il se construit une base, et cette base, on y accroche toujours d'autres choses dessus. Et puis, on peut toujours aller ailleurs, essayer autre chose. C'est comme un musicien, il vous fait pas que du classique. Il fait classique, il fait jazz, il essaye, moderne, il essaye. Pour plaisir, quoi. C'est un peu ce qu'on fait.
Catherine a quand même le retour de la salle. Parce que moi, je vois les clients en arrivant. Parce que nous, on est une cuisine ouverte. Oui. C'est bien que je vois les clients arriver, je les salue. Après, je retourne au fourneau. Hein. Et puis, Catherine passe toute la soirée ou toute la matinée, enfin, le repas du midi, si c'est le midi... avec ces personnes. Et puis, il y a le retour quand même de la salle qui est important. Voir si les gens apprécient ceci, cela. Bon, voilà. C'est bien que...
Alors, comme la musique, hein, des fois ça peut être doux, des fois ça peut être plutôt rock'n'roll. Comment naît l'idée d'une recette, Gérard? Est-ce que c'est le produit qui vous inspire ou est-ce qu'au contraire, vous avez votre idée et après vous partez à la recherche du produit?
Alors, déjà, il faut savoir que pour élaborer une recette, ça dépend... un peu des rencontres qu'on a fait, des voyages, des promenades qu'on a fait. La cuisine d'hiver n'est pas la même que celle d'été. Je veux dire, oui, chaque région apporte ses richesses et puis ses nouveautés. Et puis, c'est souvent sur 2-3 produits, comme on parlait de musique tout à l'heure, on part sur 2-3 accords. Et puis, ça vient tout seul après.
Ça vient tout seul, des fois il faut un peu de temps, mais ça vient.
Oui, il faut un peu de temps. Ouais.
Non, je dis ça parce qu'on a eu l'engrain des moulins de Saules, enfin de la vallée de Saules, de chez Grosjean. Ils nous ont envoyé un paquet, il est resté 6 mois dans l'armoire.
Ah, quand même.
Ça, oui, à peu près. Parce que Gérard, il fallait du temps. Il ne savait pas comment la prêter. Puis quand il a compris comment... Enfin, il a saisi comment la prêter, il m'a dit, c'est bon, tu commandes. 12 kilos, on y va. Et puis depuis, on travaille toujours avec eux. On a un bon produit avec des gens qui sont magnifiques. Qui font un produit magnifique.
Mais parce que quand vous l'avez reçu, ce n'était pas le moment.
Oui,
finalement.
Oui, c'était pas...
à milieu de ça.
Oui, voilà, j'avais déjà trop de choses en tête. Je pense que ça... Ouais.
Non, puis il faut du temps. Il faut que le chemin se fasse.
Mais vous avez un petit tiroir de créativité. Genre, vous allez vous coucher, vous vous levez le matin, puis tac, vous savez déjà...
Alors écoutez, j'ai déjà un peu d'entraînement du fait que... Bon, j'ai travaillé pendant 10 ans pour un magazine de cuisine.
Oui.
Plus une école de cuisine l'hiver, parce que le restaurant était fermé durant la période hivernale. Hein. Et c'est bien que... Entre le magazine et puis les cours de cuisine et le restaurant, je produisais
cours de cuisine
à peu
au
près.
Niveau professionnel, donc pour tous les chefs de cuisine français.
Ouais. 200, 250 recettes par année publiées, quoi. C'est-à-dire que c'est... Alors, si bien que ces recherches m'ont amené à travailler beaucoup les épices, à chaque fois conjuguer des choses différemment, ouais.
Alors, vous utilisez aussi des produits venus de loin, hein, dont vous seul connaissez le secret. Là aussi, vous faites comment pour les trouver, ces goûts? Je pense notamment au poivre du Congo.
Poivre
congolais, là, qui va bien avec l'ananas. Vous le laissez dans cette émission. Mais vous faites comment? Enfin, quand vous l'avez, là, entre les mains, c'est vous qui allez le chercher? C'est on vous l'amène?
Alors, disons qu'on travaille avec une maison sur Paris, hein, c'est la maison Tiercela, qui était déjà un gros producteur de vanille et puis de safran au niveau de la France et puis au niveau de l'Europe. Et puis, ils sont développés ensuite sur toutes les épices. Hein. Et puis, ils font des voyages, ils découvrent des produits extraordinaires. Et puis, comme le chocolat maintenant, on cultive dans les hauts plateaux. Ces produits-là, c'est fabuleux, quoi. Hein. Je veux dire, avant, on faisait beaucoup de coca. Maintenant, on en fait un petit peu moins. Et puis, on produit des chocolats extraordinaires à des prix qui restent abordables.
Chocolat, ouais, des épices. Ouais. On a un poivre népalais qui s'appelle le poivre Timut, qui sent le pamplemousse, qui est extraordinaire. On a un poivre du Vanuatu.
Oui, mais justement, là, vous recevez votre poivre du pamplemousse. Je le mets sur quoi?
Disons que ça... C'est relativement facile, il n'y a pas de souci. Je sens le produit, et puis voilà, ça... Ça
diffuse.
Ouais.
Incroyable. Chaque quinzaine, hein, vous proposez une nouvelle carte. Vous vous renouvelez sans cesse. Alors, vous faites comment? C'est entre tout ce qu'on vient de dire, c'est un peu d'inspiration par rapport aux connaissances, par rapport à vos voyages, c'est un peu d'inspiration par rapport à un produit.
Alors, tout rentre en jeu. C'est-à-dire que vous parlez, bon, les voyages, toutes les rencontres, tout ce qu'on a goûté. Et puis, bon, écoutez, j'arrive à 57 ans, j'ai commencé à 17 ans. Bon. Il y a un peu de vécu quand même. Et puis, il faut savoir qu'un cuisinier qui travaille beaucoup, parce que c'est quand même le cas, en toute modestie, on a en mémoire toutes les saveurs. C'est bien que, par exemple, si vous me dites poire rôti, chocolat et noir, je l'ai en bouche.
Incroyable.
Alors, je veux dire que ça fait gagner un temps fou, parce que on arrive à conjuguer des choses qui, en premier lieu, ne paraissent pas s'accorder. Ouais.
Ça, c'est incroyable. Mais vraiment, Gérard, vous avez dit lors d'un entretien, je cite, « La cuisine est une sorte d'entonnoir dans laquelle s'engouffrent tous les souvenirs, les voyages, les apprentissages, mes recherches historiques, les produits nobles, le meilleur du terroir. » Donc vos inspirations, c'est donc cette phrase, elle résume vos inspirations.
Bah oui, disons que dans la famille, bon, on est quand même une famille de paysans. Enfin, puis j'avais deux grand-mères qui étaient excellentes cuisinières, dont une qui faisait une table d'hôte à l'époque. Et puis c'est toutes ces vibrations, ces sensibilités qu'on ressent, puis qu'on essaie de retransmettre. En fait, quand on prend des choses, et puis après ça ressort à fur et à mesure. Voilà.
Est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous proposez une idée l'un à l'autre, de ne pas être d'accord? Catherine,
en cuisine, rarement. Alors, quand moi je propose, des fois ils rigolent joyeusement.
Non, mais. ça va pas ensemble, ou parce que c'est farfelu, ou parce que.
Oui, des fois c'est farfelu, mais des fois c'est les goûts qui vont pas ensemble. Parce que moi j'ai pas ça.
Vous avez pas ce truc.
Alors,
dans
je demande, maintenant je dis pas on devrait faire ça. Je dis est-ce que ces deux goûts-là vont ensemble, ou est-ce que je peux les conjuguer? Et puis, alors, ben voilà, les réponses, ils me les donnent, mais souvent avec l'explication. Non, parce que c'est deux goûts qui sont antinomiques ou c'est deux goûts qui vont qui vont s'aplatir l'un l'autre. Donc ça, c'est pas possible. Mais alors maintenant, j'ai encore un... maintenant que j'enseigne un petit peu d'économie familiale, j'ai plus de ressources aussi pour aller voir ça.
N'est-ce pas ? Vous lui faire des petits pieds de nez.
Oui, oui.
Ah, oui, mais disons que moi, je sens jusqu'où on peut aller. Et puis, si des fois son idée, je trouve qu'elle est à mi-chemin, je dis non, tu peux faire mieux.
Vous l'aidez pas, donc vous, si elle a une idée, si elle vient avec une idée,
Alors je donne quelques indices, mais il faut qu'elle ait le plaisir de découvrir elle-même, parce que comme c'est elle qui sert ensuite, toute contente de dire bon, Gérard, c'est le salé, mais moi, c'est le sucré.
Oui, alors justement, vous êtes tous à tout, mais vous avez plus d'une corde à votre arc, et puis vous avez notamment suivi des cours pour vous perfectionner dans les desserts. Donc aussi. C'est à vous qu'incombe. Ouais. Les desserts au Château de Pelouse.
Toute la fabrication des desserts, des petites mignardises, des glaces, du pain, tout ça, c'est moi.
Tout fait maison, tout on est fait bien maison. D'accord, on insiste
oui.
sur ce point.
Il n'y a rien qui sort, qui n'est pas fait.
Et du coup, là, les desserts, c'est votre domaine.
Oui.
Il vient mettre son grain de sel ?
Pas dans la réalisation. Une fois qu'on est d'accord dans ce qu'on doit faire, non.
Mais dans le goût quand même.
Mais dans le goût, c'est oui, savoir si j'assemble de telle manière ou telle. Parce que les goûts, on peut les mettre où on veut. S'il me dit, voilà, j'aimerais... qu'est-ce qu'on a fait ? Par exemple, on a fait un tiramisu avec de la mangue.
Oui.
Alors la mangue, on la met où ? Dans la mousse ou dans le biscuit ?
Oui.
Donc ça, je peux les mettre dans les deux. Mais moi, j'ai proposé qu'on mette dans le biscuit. Parce qu'on fait toujours une infusion, un tiramisu avec du café. Oui. Donc là, j'ai proposé plutôt l'infusion de mangue. Donc ça marche. Ça marche dans ce sens-là, si on veut bien. Parce que le goût, il doit y être. Mais où on le met ?
Et vous goûtez, vous faites, vous goûtez, vous passez votre soirée ensemble à goûter, à dire, tiens, t'en penses quoi ? Et tout d'un coup, ça peut être possible que c'était une bonne idée de le mettre dans le biscuit, mais finalement, c'est mieux de le mettre dans la mousse.
Ah oui, il y a toujours des possibilités de...
Ça reste tout très ouvert.
Ce qui est extraordinaire dans la cuisine, c'est que si des fois, il y a quelque chose qu'on a pas loupé, mais qu'on a...
On n'est pas trop content, c'est moyen.
Le lendemain, c'est reparti... On fait différemment.
Vous persévérez. Enfin, c'est ça aussi qui est beau, c'est que vous persévérez. Vous vous dites, j'ai décidé de faire un tiramisu à la mangue.
Oui.
Je vais faire ce tiramisu à la mangue.
Oui, on va trouver une solution. Alors, vous savez, la plus belle réalisation, c'est la glace salée. Parce qu'on a ce qu'on appelle un pacojet pour faire les glaces. Mmh. Puis, il fallait trouver une astuce pour remplacer le sucre.
D'accord.
Et comment on remplace du sucre dans une glace salé, parce que le sucre donne liant et la souplesse. Donc si on n'a pas de sucre, avec quoi on fait ? Alors on a trouvé qu'avec de l'amidon. Mais l'amidon, on le trouve où ? À part dans la farine, parce que la farine dans une glace, c'est pas terrible.
Je pense pas.
Mais on le trouve dans le riz. Dans un riz trop cuit.
Un risotto
à l'eau, trop cuit.
Incroyable.
Et ça passe dans la glace. Et
selon vous, parfumez le risotto, mais il a un goût différent.
Voilà.
Et puis avec ce riz, donc, vous avez parfumé,
glace. On peut faire un sorbet. Alors, ça s'appelle aussi un sorbet, parce qu'il n'y a pas de lait dedans.
Sorbet melon,
tomate, concombre, enfin, ce qu'on veut.
Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Voilà. Mais il fallait chercher l'astuce.
Donc là aussi, on va trouver.
Faut chercher pourquoi ça ne fonctionne pas.
La table des gourmands. Jusqu'à 19h.